Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 2, nous en sommes au verset 33 sur le polycopier qui contient les textes des pères, le résumé des textes des pères. Les chapitres 1 à 5 de Saint-Luc, nous en sommes à la page 24, au milieu de la page. Donc je vous rappelle où on en est. Notre Seigneur Jésus-Christ vient d'arriver au temple avec ses parents, son père putatif, Saint-Joseph, sa mère, notre Sainte Vierge Marie. Et au temple, il y avait ce vieillard qui attendait depuis de longues années. Il s'appelait Siméon. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était en lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit de Dieu. Et comme les parents de l'enfant Jésus l'emportaient afin d'accomplir pour lui ce que la loi ordonnait, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit, même ce Nunc Dimittis, tellement important. Maintenant, Seigneur, vous laisserez votre serviteur s'en aller ramper selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le salut qui vient de Dieu. Salut que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, votre peuple. Nous avons déjà expliqué cette partie. Son père et sa mère, versets 33 et 34 du chapitre 2 de Saint-Luc. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël et comme un signe qui excitera la contradiction. On touche là la dernière prophétie, si vous voulez, de l'Ancien Testament ou la première du Nouveau Testament, comme vous voulez. Premier point important, verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration. L'admiration, ici, il faudrait presque traduire par étonnement. C'est une preuve de plus que Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie, contrairement à ce que racontent certaines personnes, qui prétendent mieux savoir que tout le monde, n'avaient pas la science infuse. Si quelqu'un sait tout par avance, il a la science infuse, il connaît tout, il n'a pas à être étonné de quoi que ce soit. Alors, le texte qui suit est très important. Voici que cet enfant est établi pour la ruine ou pour la résurrection d'un grand nombre en Israël et un signe de contradiction. Donc, qu'est-ce que dit Siméon ? Siméon dit, il prend l'enfant entre ses mains, entre ses bras, dans ses bras, et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, cet enfant, devant cet enfant, tous les hommes vont être obligés de prendre parti. C'est un texte très important. Il n'y a pas de neutralité devant notre Seigneur. On ne peut pas dire, notre Seigneur Jésus-Christ, je ne connais pas, ça ne m'intéresse pas, moi, ce ne sont pas mes affaires. Ou on utilise notre Seigneur Jésus-Christ pour sa propre ruine, parce qu'on le refuse, qu'on le rejette comme roi, et donc, contraint et forcé, si je rejette notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, comme maître, je vais être obligé de prendre un autre roi. Et ce roi va entraîner ma ruine. Ce roi, c'est le démon. Ou au contraire, j'accepte et je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme mon prince, comme mon roi, comme mon créateur et mon rédempteur. Et du coup, immédiatement, ipso facto, je vais rejeter le roi de ce monde, à savoir le démon.
Donc, ou j'utilise notre Seigneur Jésus-Christ pour ma ruine parce que je le rejette, ou j'utilise notre Seigneur Jésus-Christ pour ma résurrection parce que je l'utilise comme il veut être utilisé par moi. On ne peut pas rester coincé au milieu. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est terrible dans le monde moderne. Le nombre de gens qui vont vous dire que moi, ça ne m'intéresse pas. Dieu, je m'en fiche. Dieu, je m'en fiche. Ça m'est complètement égal. Ce n'est pas mes histoires. Et quand on le dit aux gens, mais vous ne savez pas que vous allez être créature comme tout le monde et vous allez mourir comme tout le monde et le jour de votre mort, vous allez avoir une séparation entre votre corps et votre âme et que votre âme va voir Dieu. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Ce ne sont pas mes affaires. Et c'est terrible. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit expressément, nul ne peut servir de maître à la fois. On ne peut pas être neutre, ce n'est pas possible. Vous voyez, beaucoup de gens sont comme ça. Donc il y a deux camps, il y a le camp du démon, il y a le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, et des gens pensent qu'ils peuvent rester entre les deux. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui reste entre les deux, qui se place entre notre Seigneur Jésus-Christ et le prince de ce monde, à savoir le démon, il est avec le prince de ce monde. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi est dissipe et disperse, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la neutralité devant notre Seigneur Jésus-Christ n'existe pas. Et là, on touche un point fondamental pour l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II voudrait que notre Seigneur Jésus-Christ soit quelqu'un de neutre entre les deux. Que tous les hommes puissent aimer notre Seigneur Jésus-Christ, mais que ça ne soit pas une nécessité absolue. Bien, si je refuse notre Seigneur Jésus-Christ, je serai obligé de l'utiliser pour ma ruine. Et si je l'accepte, je serai obligé de l'utiliser pour ma résurrection. La deuxième partie de cette prophétie est très importante aussi. Il sera un signe de contradiction. Souvent, les catholiques utilisent cette phrase, mais ils la comprennent de travers. J'ai remarqué, c'est très souvent compris de travers. Et je vois, lorsque je pose cette question aux adolescents, même aux adultes, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est-il un signe de contradiction? Pratiquement à chaque fois, j'ai la même réponse, qui est à mon avis une réponse fausse. Les gens vont me dire, les catholiques vont me dire, notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction parce qu'il est Dieu. Mais pas du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Donc écoutez bien. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un signe de contradiction parce qu'il est Dieu. N'oubliez pas qu'au temps des Romains, ils pratiquaient le polythéisme. Les Juifs étaient monothéistes. Mais ils étaient gouvernés par le peuple romain. Le peuple romain pratiquait tous les dieux de la création. À tel point que lorsque l'armée romaine envahissait un nouveau pays, on a ajouté tranquillement les dieux du pays conquis au panthéon des dieux romains, un dieu de plus, un dieu de moins, c'est pareil, ça peut toujours servir à quelque chose. Et donc, les juifs étaient entourés de polythéistes, de gens qui croyaient en plusieurs dieux. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, s'il se dit Dieu, ne provoque pas une contradiction. Parce que pour les gens du monde, si notre Seigneur Jésus-Christ se dit Dieu, trop bien. Il y a aussi Allah qui se dit Dieu, il y a Bouddha qui se dit Dieu, il y a Macron qui se dit Dieu, qui se prend pour le bon Dieu, il y a un peu tout le monde autour de nous qui se prennent pour des dieux. Ça gêne personne de dire ça. Donc si vous mettez un grand signe dans votre dos en disant sur lequel il est écrit notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ça gêne personne, vous n'aurez pas de problème. Et par contre, si vous écrivez « Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu et le Dieu des gentils, les dieux des gentils sont des démons, c'est-à-dire les dieux des non-catholiques sont des démons », alors là, vous allez vite vous retrouver égorgé ou avec une balle de Kalachnikov dans la tête. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un signe de contradiction parce qu'il est Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction parce qu'il est l'unique vrai Dieu. Et on le voit très bien dans la pèlerination, le pèlerinage pendant 40 ans dans le désert et même après, et en Égypte aussi avant, on voit à quel point les Hébreux sont préservés de la contamination du polythéisme. Ils vivaient en Égypte, peuple polythéiste s'il en est, qui adorait un peu tout. Autour d'eux, ils étaient entourés par d'autres peuplades autour d'eux, dans l'actuelle Palestine, autour de la Palestine, qui étaient eux-mêmes adorant des faux dieux tout le temps. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien expliqué, il est l'unique vrai Dieu. Il a voulu préserver chez son peuple, c'est-à-dire le peuple juif de l'Ancien Testament, et aujourd'hui chez les catholiques, il a voulu préserver l'unicité de la divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, et notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, précisément parce qu'il est l'unique vrai Dieu. S'il est l'unique vrai Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres dieux sont des faux dieux. Donc attention, on entend beaucoup trop de bêtises aussi de gens qui nous parlent des grandes religions monothéistes. Alors il y a le christianisme en général, il y a le judaïsme et il y a l'islam. Comme si c'était le même Dieu qui était le Dieu des juifs, le Dieu des protestants, le Dieu des catholiques, le Dieu des musulmans et le Dieu des juifs, mais c'est pas du tout le même. Le Dieu des catholiques est un Dieu unique. Mais c'est un Dieu en trois personnes, attention. Trois personnes consubstantielles. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Les trois personnes, un seul Dieu en trois personnes, les trois personnes sont consubstantielles avec la même substance divine. Est-ce que le Dieu actuel adoré par les Juifs est un Dieu en trois personnes? Est-ce que les Juifs d'aujourd'hui acceptent de reconnaître que celui qui est mort crucifié par eux, le vendredi saint il y a 2000 ans, était un homme, Dieu? Bien sûr que non. Donc ils n'acceptent pas notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça qu'ils l'attendent. Sous-entendu, il n'est pas encore venu. Est-ce que les musulmans ont le même Dieu que Dieu des catholiques? On entend constamment des gens nous dire ça autour de nous, mais le Dieu des musulmans et le Dieu des catholiques, c'est le même? Mais bien sûr que non, le Dieu des musulmans n'est pas un Dieu en trois personnes. C'est un Dieu qui n'est pas un Dieu trinitaire. Le Dieu des protestants, on dit qu'il y a autant de Dieu chez les protestants que de protestantisme. Chaque protestant a plus ou moins son propre Dieu. On ne peut pas séparer, attention, on ne peut pas séparer le vrai Dieu de l'Église divine. On va expliquer ça dans 5 minutes. Donc, les protestants refusant l'Église divine, l'Église catholique, n'acceptent pas le vrai Dieu puisqu'ils refusent son Église. Donc, si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction de par le monde, parce qu'il prétend être le véritable vrai Dieu, ce qu'il est, soyez pas étonnés si son Église aussi est un signe de contradiction. Et là, on retrouve exactement le même problème. Si je pose la question à la plupart des fidèles, mais pourquoi est-ce que l'Église catholique est un signe de contradiction de par le monde? En général, j'ai toujours la même réponse. Mais monsieur l'abbé, l'Église catholique est un signe de contradiction tout simplement parce que c'est une Église divine. Mais pas du tout. Vous avez rien compris? Elle est à l'Église qui se dit divine. L'Église bouddhiste se dit Église divine, l'Église des protestants se prétend Église divine, l'Église des musulmans se prétend être Église divine, l'Église des juifs se prétend être Église divine. Ça gêne personne. Encore une fois, si vous promenez dans la rue avec un signe sur votre dos, un grand placard qui dit « l'Église catholique est une Église divine », ça gêne personne. Où est-ce que le bas blesse? Le bas va blesser quand vous commencez à dire la vérité sur ce sujet en disant que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. L'Église catholique est l'unique Église de Dieu. Il ne peut y avoir de salut hors de l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Alors là, vous allez voir les persécutions qui vont arriver. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est persécuté parce qu'il est l'unique vrai Dieu. L'Église catholique est persécutée parce qu'elle est l'unique véritable Église. Alors, si l'Église catholique est persécutée, si notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur et Rédempteur est persécuté, comment voulez-vous que les membres de cette Église, les catholiques que nous sommes, ne soyons pas persécutés? Bien cher, nous aussi nous serons persécutés, évidemment. Et je dirais même, si nous ne sommes pas persécutés, mais si les gens du monde ne nous persécutent pas, c'est un très mauvais signe pour nous. Ça prouve qu'on n'est pas vraiment catholique. C'est un moyen d'arriver à savoir où est la vérité. Regardez quels sont les gens qui sont encensés par le monde. Quels sont les politiciens qui sont encensés par le monde. Quels sont les hommes d'église qui sont encensés par le monde. Vous entendez beaucoup de critiques contre Bergoglio dans le monde moderne? Chez les grandes multinationales, chez les grands médias actuels, sur Internet, sur les grands journaux, vous entendez beaucoup de critiques de Bergoglio, par exemple, sur Le Monde, le journal Le Monde, mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont parfaitement compris, au moins en partie, ils n'ont pas encore tout compris, mais ils ont au moins en partie compris que là, ils ont un ami, tout simplement. Ils ont un ami qui a tout à fait l'esprit moderne, l'esprit LGBT, l'esprit d'adoration des migrants, de destruction de la foi catholique partout, de destruction de la civilisation chrétienne, etc. Donc, mes bien chers frères, ne soyons pas surpris si nous sommes des signes de contradiction dans le monde. Et je dirais, c'est un bon signe. Si vous et moi, nous ne sommes pas des signes de contradiction dans le monde, vous savez, c'est un très mauvais signe. Je donne un exemple tout simple. J'enregistre cette conférence le 9 août 2020, en pleine canicule. Il fait 40 degrés à l'ombre dehors. Bon. Quand je circule, faire une course, je circule pour préparer la retraite que je dois prêcher la semaine prochaine juste à côté de chez moi, je suis toujours en soutane. J'ai rencontré plusieurs personnes parce qu'il y avait un repas qui était organisé dans la salle des fêtes qui est juste sous mon appartement à Padiès, dans le Tarn, là où j'habite. Les gens préparaient la fête, il faisait 40 degrés à l'ombre, ils étaient tous à moitié nus, prononçons le mot. Toutes les femmes en short, n'importe comment, habillées vraiment comme des femmes publiques, pratiquement toutes. Mais elles sont venues me dire, mais comment vous faites pour être comme ça? Vous n'avez pas chaud? J'ai répondu, non madame, je n'ai pas chaud, j'ai très chaud. Ben, pourquoi vous gardez cet habit? Ça s'appelle une soutane, cet habit. Je garde cet habit parce que je suis prêtre et que c'est l'uniforme du prêtre. Eh bien, je suis sûr qu'ils ont... Ils sont très gentils, très aimables extérieurement. Ils ont tous dû penser, ce gars-là, il est complètement fou. Donc, le prêtre sera un signe de contradiction en étant en soutane par 40 degrés à l'ombre. Et je vous assure que porter la soutane par 40 degrés à l'ombre, c'est une grosse pénitence. Ce qui est surtout très pénible à supporter, c'est le col romain qui empêche la sueur de s'échapper. Donc on baigne dans notre propre sueur après 5 minutes dehors, c'est vraiment très pénible. Mais c'est notre témoignage de la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, notre fonction. Eh bien, je dis, j'explique toujours à mes fidèles, la soutane est au prêtre, ce que la jupe ou la robe est à la femme catholique. Je ne vous demande pas, je ne demande pas aux femmes qui m'écoutent, aux femmes catholiques qui m'écoutent, aux mères de famille qui m'écoutent, aux jeunes filles catholiques qui m'écoutent sur Internet, je ne leur demande pas de se promener en soutane. Mais je leur demande de se rappeler qu'elles ont été, que leur corps est le temple du Saint-Esprit, qu'elles ne l'oublient pas. Et que donc même quand il fait 40 degrés à l'ombre, elles sont toujours catholiques, elles doivent toujours être habillées. Mais c'est à tel point que il y avait un anniversaire hier soir, dans l'appartement qui est juste dans la salle des fêtes qui est sous mon appartement. Et les gens, je le connais un petit peu, il m'avait invité pour venir prendre l'apéritif ou le dessert. Mais j'y suis pas allé. Pourquoi? Parce que j'étais trop mal à l'aise en tant que prêtre de me retrouver entouré de gens à moitié nus. Parce que j'ai voulu presque éviter un scandale. Éviter un scandale pour moi, d'abord. Un prêtre entouré de gens qui sont habillés comme des pêcheurs publics, c'est quand même pas très normal. Et puis je me suis dit, mais j'ai même presque les scandalisé dans le mauvais sens du terme parce que j'aurais une soutane devant eux. C'est là où il faut se rappeler cette phrase de Siméon à propos de notre Seigneur. Cet enfant sera pour la ruine ou la résurrection et un signe qui excitera la contradiction. Donc, le mot ruine ou chute, c'est traduit parfois par ruine. Cet enfant est établi pour la chute ou pour la ruine d'un grand nombre en Israël. Les pères expliquent que cette chute, cette ruine, c'est la destruction des Juifs qui se sont rebellés contre le Christ. C'est l'annonce de la destruction du temple de la ville de Jérusalem en 71 par Titus. Au contraire, la résurrection d'un grand nombre en Israël, c'est le salut de ceux qui ont cru en lui, qui ont cru en notre Seigneur. Donc la grâce de Dieu provoque la ruine du péché, la résurrection des vertus. Donc je suis obligé de pencher d'un côté ou de l'autre. Soit je vais pencher du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, soit je vais pencher du côté du démon, mais je ne peux pas être à l'aise entre le monde et le démon. Il y a une contradiction totale, viscérale, substantielle entre l'esprit du monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Siméon dit que notre Seigneur est un signe de contradiction, il explique bien que c'est pas simplement dans la façon d'agir, c'est aussi dans la façon de penser. Parce qu'on pense en fonction de ce qu'on agit. Et celui qui ne pense pas comme il agit, un jour, il sera bien obligé de penser comme il agit. Si vous pensez comme un catholique, mais vous habillez comme pour les femmes surtout, si vous pensez comme une catholique, mais que vous habillez comme une fille publique, ben un jour, vous serez bien obligé de penser comme une fille publique, que ça vous plaise ou non. Si les hommes modernes pensent comme des catholiques, mais ne veulent se distraire que comme des protestants, un jour, ils penseront comme des protestants. Parce que l'obligation pour le prêtre de garder sa soutane va correspondre aux mêmes obligations, toutes proportions gardées, pour les catholiques qui vivent dans le monde. Vous allez passer vos vacances pendant le mois de juillet et d'août quelque part. Très bien, j'ai rien contre. Eh bien, vous devez vous rappeler que vous êtes le temple du Saint-Esprit, même quand vous vous promenez sur une plage. Et vous n'allez pas aller promener un diamant très précieux au milieu d'une bande de voleurs, parce que vous allez vous faire recevoir un coup sur la tête et on va vous voler le diamant. Vous n'allez pas promener votre état de grâce sur une plage où toutes les femmes autour de vous sont moitié nues. Et donc il va falloir, à cause du fait que vous êtes un signe de contradiction, évidemment faire un choix dans les lieux de vos vacances. Vous ne pouvez pas savoir à quel point les gens ont besoin de cette affirmation de la foi catholique par la façon de vivre. Je vais donner un autre exemple tout bête. J'ai pris une journée de vacances avant cette semaine dernière, parce que j'avais cette retraite à Carib. Je suis très occupé, donc j'ai voulu prendre une journée de vacances. Ils annonçaient le grand bœuf. Je voulais faire une promenade en montagne, à partir de Tarascon, au-dessus de Tarascon sur Ariège, dans les Pyrénées. Bon, j'aime faire ce qu'on appelle le kilomètre vertical. Bon, on part d'un parking aussi haut qu'on puisse monter en voiture, et puis on monte sur la montagne sur 1000 mètres de dénivelé. Je suis parti de 1650 et je suis monté jusqu'à 2650. Bon, ce qu'on appelle le kilomètre vertical, c'est un peu exigeant. Il fait encore très chaud à 1600 mètres, il fait encore pratiquement 30 degrés, mais j'étais en soutane, bien entendu. Je me promène en soutane sur les sentiers de chèvres. On rencontre du monde. On rencontre des gens, et là, on ne rencontre pas des foules, on rencontre des gens isolés. Toutes les demi-heures, je vais rencontrer quelqu'un, c'est la tradition en montagne, on s'arrête, on parle, on cause. Vous ne pouvez pas savoir le bien que peut faire la soutane. Même les païens s'arrêtent, ils me disent, vous êtes prêtre? Je dis oui. Ils sont stupéfaits de voir un prêtre en soutane qui se promène à 2500 mètres d'altitude. Et j'ai eu des discussions sérieuse avec certaines personnes. Certaines personnes me disent, est-ce que vous pouvez prier pour tel membre de ma famille, mon père qui en a besoin? À ce coup-là, ils sont tout seuls avec moi, ils n'ont pas peur du quand dira-t-on. Alors là, ils retrouvent tous les termes qu'il faut. C'est bizarre. Quand les gens sont en groupe, dans le monde moderne, ils m'appellent toujours en France au moins monsieur. Mais quand ils rencontrent un prêtre en soutane à 2500 mètres d'altitude, là, d'un seul coup, ils sont seuls avec lui. C'est mon père. Bonjour, mon père. Et puis on arrive à les faire réfléchir. On arrive à les faire réfléchir. Et j'ai rencontré un monsieur, j'étais à 2200 mètres d'altitude, ou 2000, oui c'est ça, entre 2000 et 2200 mètres d'altitude, au-dessus du lac de Soulcène, dans les Pyrénées. Et j'ai bien discuté avec ce monsieur, parce qu'il a vu la soutane, ça lui a ouvert le cœur. Et j'ai pu expliquer certaines choses. Il m'a dit, mais mon père, qu'est-ce qui se passe avec la France ? Pourquoi la France est en train de dégringoler comme ça depuis ces dernières années? J'ai regardé droit dans les yeux, je lui dis, vous voulez savoir? Je lui dis, c'est parce que les prêtres ne font plus leur travail, les prêtres de l'église de Vatican II ont trahi leur mission et ne font plus leur travail depuis les années 1960. Voilà pourquoi la France s'est cassée la figure. Ben, c'était l'objet d'une solide discussion avec lui. Mais bien, chers frères, n'ayez pas peur d'agir comme catholique. N'ayez pas peur de vous vêtir comme un catholique. N'ayez pas peur de choisir des lieux de vacances qui sont compatibles avec la foi catholique. Le Christ, disent les pères, est une cause de ruine pour ceux qui sont scandalisés de l'humilité de sa chair et un principe de résurrection pour ceux qui ont reconnu la certitude de l'accomplissement des conseils divins. Donc le Christ est un signe de contradiction pour tous ceux qui refusent l'humiliation de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup se sont scandalisés en voyant la passion. Même les catholiques d'aujourd'hui sont scandalisés par cette passion. Ils me disent, monsieur l'abbé, cette passion, c'est la passion du Christ, mais c'est pas possible, c'est une boucherie. Bien sûr que c'est une boucherie. J'expliquais ce matin au sermon que j'ai donné pour le dixième dimanche après la Pentecôte, j'expliquais que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Et que si on en est là, c'est précisément parce que les catholiques ne font plus leur travail. Donc il faut, disent les pères, que le pécheur qui est en nous tombe et meure pour que nous puissions ressusciter et dire, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir jouir de sa divinité, il y a une condition. La condition, c'est laquelle ? La condition, c'est de vivre en état de grâce, de garder l'état de grâce. C'est l'évangile d'aujourd'hui, ce dixième dimanche après la Pentecôte, le publicain, le pharisien ressort de l'église, il n'a pas été pardonné parce qu'il est plein d'orgueil. Au contraire, le publicain qui regarde de loin l'autel en disant simplement « Ayez pitié de moi parce que je suis un pécheur », celui-là, il voit notre Seigneur, il reçoit le pardon des péchés. Il ne faut pas oublier ça, mes bien chers frères. Le bon Dieu est plein de miséricorde pour le pécheur repentant. Et il manifeste sa toute puissance, c'était l'oraison extraordinaire de ce matin, il manifeste sa toute puissance principalement par la pitié et le pardon. Il ne manifeste pas sa toute puissance par la création du ciel et de la terre, il manifeste sa toute puissance par la pitié et le pardon et l'exercice de sa miséricorde. Mais il faut en contrepartie, mes bien chers frères, que nous répondions à cette miséricorde. Le bon Dieu est prêt à exercer sa miséricorde, non pas à l'égard de tous les pécheurs. C'est ça qui a tué le monde moderne. Pour moi, le crime numéro un de l'Église de Vatican II, c'est d'avoir fait croire aux fidèles que Dieu pardonne tous les pécheurs, sans condition. Qu'il n'y a pas besoin de regretter ses péchés, qu'il n'y a pas besoin de changer de vie, qu'il n'y a pas besoin d'éviter et d'éliminer les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Du moment qu'on regarde notre Seigneur en disant « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, le bon Dieu pardonne tous les péchés. » Donc il n'y a pas besoin de changer de vie. C'est ça qui a tué le monde moderne. Parce que l'Église de Vatican II a fait croire qu'on n'avait pas besoin de changer. Mais cet exemple épouvantable de Bergoglio, quand on lui pose, un journaliste lui pose une question sur ce péché qui crie vengeance contre le ciel, le péché d'homosexualité. Qu'est-ce que répond Bergoglio ? Qui suis-je pour juger ? Et donc c'est une façon de dire, continuez, faites ce que vous voulez, qui suis-je pour juger ? Je vous poserai une seule question, monsieur Bergoglio. Vous avez déjà ouvert l'Épître aux Romains ? De Saint Paul, vous avez déjà ouvert le premier chapitre de l'Épître aux Romains, la deuxième partie du premier chapitre de l'Épître aux Romains, vous allez voir ce que le bon Dieu, comment le bon Dieu vous demande de juger ses péchés contre nature. Je vous lis ce texte, mes bien chers frères, pour rafraîchir vos mémoires peut-être. C'est la deuxième partie du chapitre 1 de l'Épître aux Romains, premier épître de Saint Paul donc. Verset 18 à la fin du chapitre, verset 32, je vous lis ce passage qui n'a pas pris une ride à méditer, mes bien chers frères, et à faire lire à ceux qui vous disent qu'on n'a pas le droit de juger les gens qui vivent dans l'homosexualité. Voilà ce que dit le Saint-Esprit sur ce sujet. Voici que du ciel, en effet, se révèle la colère de Dieu contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent la vérité captive de l'injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est parmi eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. Depuis la création du monde, en effet, ses attributs invisibles deviennent par ses œuvres visibles à l'intelligence, sa puissance éternelle, comme sa divinité. Aussi sont-ils inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne l'ont ni glorifié, ni remercié comme Dieu. Au contraire, ils se sont perdus en de vaines pensées, et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Se flattant d'être des sages, ils sont devenus fous. Et à la gloire de Dieu, du Dieu immortel, ils ont substitué des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ici, notre Seigneur, le Saint-Esprit parle de ceux qui tombent dans l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Voilà pourquoi, donc conséquence de cette idolâtrie, dit saint Paul, voilà pourquoi Dieu les a livrés avec les convoitises de leur cœur à l'impureté, pour qu'en eux soit déshonoré leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité divine pour le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur, lequel est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, écoutez ce passage. Donc, conséquence du péché d'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamantes. En effet, leurs femmes ont échangé le commerce naturel pour celui qui est contre nature. Pareillement, les hommes ayant abandonné le commerce naturel avec la femme se sont consommés de désirs les uns pour les autres, ayant d'homme à homme des relations honteuses et recevant ainsi en eux-mêmes le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence pervertie pour faire ce qui ne convient pas, remplis qu'ils sont de toute injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de dispute, de fourberie, de perfidie, médisant, calomniateur, honni de Dieu, insolent, orgueilleux, présomptueux, ingénieux pour le mal, rebelle aux parents, sans discernement, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Eux qui connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de tels actes méritent la mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les commettent. Alors quand M. Bergoglio dit qu'il ne peut pas juger ces gens-là, qu'il sache que le Saint-Esprit a une idée différente du sujet. Comme il importe, mes bien chers frères, d'avoir ce courage de manifester sa foi. Donc, je continue le texte des Pères, page 24 sur le polycopier. Que le pécheur qui est en nous tombe et meure, pour que nous puissions ressusciter, et dire, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La résurrection, dont parle le texte ici, cet enfant est établi pour la résurrection d'un grand nombre en Israël. La résurrection, c'est une vie toute nouvelle. Attention, notez que le texte ne dit pas cet enfant est établi pour la résurrection de tous. Ça, c'est l'enseignement de l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II dit que Dieu est établi pour la résurrection de tous. Tout le monde est sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est mort pour nous sur la croix. Mais l'Évangile dit, cet enfant, Dieu homme, est établi pour la résurrection, mais aussi pour la ruine. Et pas pour la ruine et la résurrection de tous, mais pour la ruine et la résurrection d'un grand nombre. Mais il sera un signe de contradiction. Donc la résurrection, c'est une vie toute nouvelle. Lorsqu'un impudique devient chaste, un avare miséricordieux, un homme violent plein de douceur, c'est une véritable résurrection où nous voyons le péché frappé de mort et la justice ressuscitée. Donc lorsqu'un homme passe d'état de grâce à l'état de péché mortel, il utilise cet enfant Dieu pour sa propre ruine. Si au contraire un homme, une âme passe de l'état de péché mortel à l'état de grâce, eh bien, il va utiliser cet enfant Dieu pour sa résurrection. Quelle joie, mes bien chers frères, surtout aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui passe un coup de téléphone, déjà que je ne connais pas, ou que je n'ai pas vu depuis des années, il me dit, monsieur l'abbé, est-ce que je peux me confesser? Je lui dis, bien sûr, je vous confesse tout de suite. Imaginez quelqu'un, ça arrive, c'est des choses qui arrivent régulièrement. qui vient se confesser et qui me disent, monsieur l'abbé, ma dernière confession, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Et alors là, je vois qu'il y a la contrition puisqu'il vient de se confesser et qui font l'effort de changer ce qu'il a changé. Et je leur dis tout de suite, le bon Dieu est plein de miséricorde à l'égard du pécheur repentant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, vous allez faire une bonne confession. Et donc souvent, je vois cette personne qui était rentrée peut-être au confessionnal, Dieu sait, moi non, et qui était rentrée au confessionnal, l'âme encombrée de péché, encombrée de vice, encombrée de démons, avec la moitié de l'enfer dans son âme. Ressort 5 minutes plus tard, après avoir reçu l'absolution, il ressort du confessionnal, c'est ça la grandeur de la confession, avec une âme illuminée par la charité. Charité comme un coup de tonnerre dans cette âme, un éclair extraordinaire de puissance, d'éblouissement, qui brûle toutes les toiles d'araignée, toutes les saletés, tous les péchés de l'âme. Et l'âme ressort brillante comme un diamant en pleine lumière. Voilà, mes bien chers frères, ce que le bon Dieu veut faire dans nos âmes. Donc à ce moment-là, il sera un signe de résurrection. Et c'est ce qu'expliquent les pères, je répète ce passage. Lorsqu'un pays devient chaste, un avare miséricordieux, un homme violent, plein de douceur, c'est une véritable résurrection. Nous voyons le péché frappé de mort et la justice ressuscitée. Cette résurrection dont parle notre Seigneur Jésus-Christ ici, c'est la conversion. De même que la circoncision spirituelle explique que nous devons faire pénitence pour nous couper des occasions prochaines volontaires de péché grave. Et cette résurrection, la résurrection, c'est quoi la résurrection? C'est tout simplement la vie de la grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous par sa grâce sanctifiante. Nous avançons, Saint-Luc chapitre 2, versets 35 à 37. Et à vous-même, je reprends le texte. Siméon dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction, on a déjà expliqué. Deuxième partie. Et à vous-même, un glaive vous percera l'âme, afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, était très avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle était veuve alors, et âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et la prière. Là, c'est un passage extraordinaire. Voilà la très sainte Vierge Marie qui vient présenter son enfant Dieu, toute fière, toute heureuse, au temple de Jérusalem, dans son temple. Et voilà ce vieillard qu'elle n'a jamais vu, cet inconnu, qui prend l'enfant, qui la regarde droit dans les yeux et qui lui dit « Un glaive de douleur vous percera l'âme ». C'est vraiment un empêcheur de tourner en rond, comme on dit. Imaginez la douleur de la très sainte Vierge Marie. Elle qui était pleine de joie de porter son enfant au temple. Un glaive de douleur vous percera l'âme. On aurait pu croire que notre Seigneur aurait souhaité éviter ce genre de souffrance à sa mère au moins au début et lui laisser toutes les joies de l'enfance de son divin Fils. Et que cet avertissement n'arrive qu'au moment de la passion. Serait-il compréhensible? Non, tout à fait au début. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a que quelques jours. Et voilà Siméon qui dit à la Sainte Vierge, un glaive de douleur vous percera l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle est co-rédemptrice du genre humain. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve par sa passion, en étant co-rédemptrice du genre humain, en étant médiatrice de toutes les grâces, eh bien, il a fallu être la Sainte Vierge Marie, déjà participer à la croix. En gros, Simon dit à la Sainte Vierge Marie, n'oubliez pas pourquoi vous avez donné votre fiat. Pourquoi vous avez dit à l'ange Gabriel, il y a 9 mois, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Parce que vous allez devoir participer à la vie de souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Vierge Marie est celle qui va donner l'humanité souffrante à son divin Fils. Elle va unir en son sein et elle va s'occuper pendant 33 ans, elle va même plus que ça, jusqu'à la mort de notre Seigneur, 33 ans, elle va s'occuper de l'humanité douloureuse, souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas souffrir comme Dieu, il va souffrir comme homme. Alors, mes bien chers frères, comprenons que, de même que Ce passage annonçant là que notre Seigneur Jésus-Christ est une ruine ou une résurrection pour chacun d'entre nous en Israël et que nous serons obligés de faire un choix pour choisir ou la ruine ou considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme un moyen de ruine en le refusant ou au contraire considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme un moyen de résurrection en l'acceptant. Mais la deuxième partie nous est également destinée, un glaive vous percera l'âme. C'est pas simplement pour la Sainte Vierge, c'est aussi, mes bien chers frères, pour chacun d'entre nous. Si le glaive de douleur a percé l'âme de notre Sainte Vierge Marie, ne soyez pas étonnés si ce glaive de douleur perce également notre âme. Nous aussi, nous appartenons au corps mystique du Christ, puisque nous sommes catholiques. Le catholique, c'est un membre du corps mystique du Christ. Et le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ est un corps souffrant. C'est une humanité souffrante. Il n'y a pas un lieu pour reposer sa tête. Les oiseaux ont leur nid pour se reposer. Le Fils de l'homme n'a pas un oreiller pour reposer sa tête. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Alors soyons pas surpris, mes bien chers frères, si cette manifestation, cette annonce de la souffrance de Notre-Dame, était également adressé à nous, un glaive de douleur également nous percera l'âme parce que je vais devoir participer à la souffrance, à la vie souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. De même qu'il y a les mystères joyeux et les mystères douloureux qui vont arriver, attention. Mais les mystères douloureux, même s'ils sont pénibles, vont être suivis par les mystères glorieux. Mais la résurrection n'arrive pas tout de suite. La résurrection, l'ascension, la descente du Saint-Esprit, le couronnement de notre Sainte Vierge au ciel, l'assomption de notre Sainte Vierge Marie, cela n'arrivera qu'à la fin, après la Passion. Pas tout de suite. Et donc, soyez pas surpris, mes chers frères, si vous et moi aussi, nous devons nous battre pour utiliser notre Seigneur Jésus-Christ pour notre résurrection, pour garder notre Seigneur Jésus-Christ et mettre le démon dehors, si nous aussi, nous devons accepter d'avoir notre cœur percé par la lance, de façon mystique, mais de façon réelle quand même. Parce que nous sommes des amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des fils adoptifs du Christ, et puisque nous sommes des fils adoptifs du Christ, il va nous falloir compléter ce qui manque à la Passion du Christ. C'est le texte de Saint Paul. Il manque quelque chose à la Passion du Christ. On pourrait croire que la Passion du Christ est complète, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il manque quelque chose. Et ce sont les membres du corps mystique, vous et moi, qui allons compléter ce qui manque à cette Passion. Alors les pères de l'Église, en bas de la page 24, expliquent pourquoi ce glaive de douleur fut tellement profond. Le glaive de douleur qui perce le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, le glaive de douleur qui perce le cœur du cœur immaculé de Marie et le glaive de douleur qui perce notre propre cœur, mes bien chers frères, notre propre cœur, mes bien chers frères, c'est aussi le péché. C'est le péché qui perce le cœur de notre Seigneur, qui ouvre le cœur de notre Seigneur. C'est le péché qui ouvre et qui perce le cœur immaculé de Marie. Et c'est le péché qui perce notre propre cœur. J'ai déjà expliqué, j'explique souvent en retraite cette belle histoire qu'on retrouve chez les auteurs du Moyen-Âge, qui explique cette histoire qui est arrivée à, je vous répète parce que peut-être que vous la connaissez pas pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ce jeune homme qui avait l'habitude avant d'aller travailler, d'aller toujours faire un petit acte de dévotion devant une très belle statue de Notre-Dame des Sept Douleurs qu'il y avait dans son église. Et avant d'aller travailler, il s'arrêtait toujours, il voulait dire « Je vous salue Marie » devant cette statue, très belle statue, avec le cœur embrasé de Notre-Dame avec les sept glaives qui perçaient ce cœur. Et un jour, un soir, ce jeune homme a le malheur de commettre une faute grave. Alors, le lendemain matin, à cause de son péché, il n'ose pas se présenter devant Notre-Dame dans cet état. Et puis, le soir, en revenant du travail, il est pris par le remords, pas encore au point de se confesser, mais quand même par le remords. Il a gravement offensé sa mère. Alors, il va quand même dire son « Je vous salue Marie » devant la statue de Notre-Dame des Sept Douleurs. Il n'a pas pu finir son premier « Je vous salue Marie ». Parce qu'il s'est aperçu à ce moment-là que la Très Sainte Vierge Marie avait dans son cœur non pas sept glaives, mais huit. Il y en avait un nouveau. Alors, bouleversé, le jeune homme a compris. Ce huitième glaive, c'est moi qui viens de le planter. Alors, il s'est levé, est allé frapper à la porte du curé. Il s'est confessé, a accusé son péché, reçoit l'absolution. Revient faire son action de grâce et sa pénitence au pied de la statue Notre-Dame de cette douleur et constate avec grande satisfaction que le huitième glaive a disparu, qu'il n'en reste que sept. Eh bien, mes bien chers frères, soyons celui ou celle qui vient enlever les glaives du cœur de Notre-Dame. À chaque fois que je commets une faute grave, je crucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon cœur, disait Saint Jean-Marie Vianney. C'est aujourd'hui sa fête. Je prépare ce cours, je donne ce cours le 9 août, fête de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d'Ars, le patron de tous les curés. Alors, les pères de l'Église vont expliquer pourquoi ce glaive de douleur fut si profond. Ils disent parce que cet amour de notre Sainte Vierge Marie mesure la douleur à cause d'abord de l'extension des douleurs du Christ. Et donc, les douleurs du Christ étant tellement profondes, tellement fortes, eh bien évidemment, elles vont blesser très douloureusement, très profondément, très fortement le cœur de sa mère. Deuxièmement, cette douleur est très profonde à cause de la dignité des personnes qui souffrent. Plus une personne qui souffre est en dignité, plus elle souffre d'être méprisée par ceux dont elle a la charge. Si un soldat de deuxième classe s'énerve et donne une claque à un caporal, bon, c'est pas très grave. S'il donne une paire de gifles parce qu'il est énervé à un colonel, c'est nettement plus grave. Mais s'il donne cette même paire de gifles au général qui commande la division, alors là, c'est la prison pour plusieurs semaines. Pourtant, c'est le même geste. Oui, mais il a frappé plus haut. Quand je commets une faute grave, je frappe au plus haut que je puis. Puisque j'offense, je perce le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et le cœur immaculé de sa mère. Donc pensons et réalisons la dignité des personnes qui souffrent à cause de mes péchés. Troisièmement, disent les pères, les glaives de douleur furent très profonds à cause de la durée des souffrances que notre Seigneur Jésus-Christ va devoir subir. Et surtout à cause de l'abandon du Christ pendant sa passion. Il va se retrouver tout seul. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Passons à la page 25. Donc les pères expliquent que ce glaive de douleur dont parle Siméon, un glaive où percera l'âme, afin que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. Ce glaive, disent les pères, représente la douleur que Marie éprouva de la passion du Sauveur et la flèche de l'amour. Il n'y a pas de vie sans souffrance, ni de souffrance sans amour. Ce glaive représente évidemment le glaive qui a été utilisé par Saint Longin pour ouvrir le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été tellement stupéfait de voir ce sang et cette eau qui sortent sous pression du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ que ce soldat, vous le savez, va se convertir. Saint Longin. Saint Longin, donc c'est le centurion qui va percer le cœur de notre Seigneur. Ce glaive va également ouvrir les cœurs des hommes. Il va manifester la trahison des Juifs, la faiblesse des disciples, l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Tout le monde y passe. Encore une fois, ne pensons pas que le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ n'a été percé sur la croix que par le crime de déicide des Juifs. Notre Seigneur Jésus-Christ, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est également percé par nos glaives, à nous. Et je vous l'ai souvent dit, je sais que certaines personnes n'apprécient pas beaucoup quand j'explique ces choses-là, parce que c'est pourtant très vrai. Posons-nous cette question. De quel coup notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il plus souffert? La condamnation à mort vociférée par les Juifs qui veulent sa mort, qu'il soit crucifié, ou d'un catholique de tradition qui va à la messe traditionnelle tous les dimanches, qui se confesse toutes les semaines et qui commet quel malheur de commettre un péché mortel. Qu'est-ce qui fait plus mal au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ? La vocifération des Juifs qui crient qu'il soit crucifié, ou la vocifération d'un catholique de tradition qui plante un glaive dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et qui le crucifie de nouveau sur l'autel de son cœur par le péché mortel? Qui est-ce qui fait plus de mal à notre Seigneur? Posons-nous cette question, mon bien cher frère. La lumière, bien qu'elle fatigue et trouble les yeux débiles, disent les pères, ne laisse pas d'être toujours la lumière. Ainsi, le Sauveur ne cesse point d'être Sauveur, quoique un grand nombre d'hommes se perdent. Même si, hélas, surtout aujourd'hui, on voit autour de nous le petit nombre relatif des élus, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, j'y peux rien, c'est comme ça, il l'a exprimé. Il a dit, nombreux sont ceux qui prennent la voie large, qui mène à la perdition. Peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite et resserrée, qui mène à la vie éternelle. Beaucoup sont appelés, peu sont élus, il l'a dit. L'Église a toujours enseigné le petit nombre relatif des élus, surtout aujourd'hui. Rappelez-vous ces comparaisons des pères qui font frémir. Les pères qui comparent le nombre des élus au nombre d'olives qui restent sur l'arbre après la cueillette, au nombre de d'épis de blé qui sont encore dans le champ après la cueillette. Je sais bien qu'à l'époque, ils faisaient la cueillette à la main, la moisson à la main, mais quand même. La puissance du Christ éclate, disent les pères, à la fois dans le salut des bons et dans la ruine des méchants. Car plus le soleil est brillant, plus il éblouit et trouble les yeux affaiblis. On ne peut pas donc séparer cette ruine et cette résurrection. À la résurrection des âmes qui ont accepté notre Seigneur Jésus-Christ correspond la ruine d'âmes, de milliers d'âmes qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, hélas, le nombre des gens qui utilisent notre Seigneur Jésus-Christ pour leur propre ruine est plus grand relativement que le nombre de gens qui utilisent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour leur résurrection, hélas. Le soleil peut illuminer ceux qui cherchent la lumière. Mais le soleil va éblouir complètement ceux qui regardent droit dans les yeux avec orgueil. Si je baisse la tête, je courbe l'échine devant notre Seigneur Jésus-Christ, je vais pouvoir suivre la lumière. Mais si je regarde avec fierté notre Seigneur Jésus-Christ droit dans les yeux en répétant la formule du démon, je ne servirai pas, évidemment mes yeux vont être brûlés. Rappelez-vous encore une fois la parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien qui se tient droit comme un i devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui regarde droit dans les yeux, n'est pas pardonné. Alors que le publicain qui au contraire s'incline avec humilité, qui reconnaît ses péchés, lui sera pardonné. Chapitre 2 du chapitre de Saint-Luc, chapitre 2, verset 38, page 25. Donc on parle ici de cette veuve Anne, qui était veuve depuis 7 ans, âgée de 84 ans. Elle aussi étant survenue à cette même heure, elle louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. On n'a pas malheureusement les paroles prononcées par la prophétesse Anne. Mais deux grands serviteurs de Dieu, hein, la prophétesse Anne et le vieillard Siméon. Les pères font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser différents instruments pour se faire connaître. Donc le Christ est reconnu par les bergers sous l'indication d'un ange. Il est adoré par les mages guidés par une étoile. Il est embrassé par les bras de l'amour par Siméon et Anne, qui ne sont plus des enfants dans la vertu mais des vieillards guidés par le Saint-Esprit. Et donc les mages qui sont des païens vont être guidés par un être irrationnel, une étoile. Au contraire, les bergers qui eux connaissent la loi de Moïse vont être guidés par un être raisonnable, l'ange. Siméon avait prophétisé, ainsi qu'une femme mariée et une vierge, il fallait qu'une veuve eût aussi part à ce don de prophétie pour que chaque condition, comme chaque sexe, fût représentée dans cette circonstance. Siméon a parlé le premier parce qu'il représentait la loi, tandis qu'Anne représentait la grâce. Le Christ laisse donc mourir avec la loi le vieillard Siméon, tandis qu'il prolonge la vie de cette sainte veuve qui représente la vie de la grâce. On peut dire aussi que Siméon représente l'Ancien Testament et que la prophétesse Anne représente le Nouveau Testament. Donc la loi mosaïque va laisser place à la loi de la grâce et la loi de la grâce laissera place à la loi de la gloire. Donc Anne, disent les pères, est la figure de l'Église qui, dans la vie présente, est comme veuve par la mort de son époux. L'Église est l'épouse mystique du Christ, n'oublions pas. Le nombre des années de sa viduité représente la durée du pèlerinage de l'Église loin du Seigneur. C'est le chiffre 7. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. la suite des siècles. Donc ce chiffre 7 représente la suite des siècles dans l'espace des 7 jours de la création. Et ce chiffre 7 multiplié par 12, qui représente la perfection de la doctrine apostolique, va donner le chiffre de 84. C'est l'âge d'Anne. On peut donc dire, soit de l'Église universelle, soit de toute âme fidèle, qui, dans le cours de sa vie, demeure fidèle à la doctrine des apôtres, qu'elle a servi le Seigneur pendant 84 ans. En général, ce genre de commentaire à partir des chiffres vient de Saint Augustin, qui aimait beaucoup jouer avec ces chiffres, qui a donné des contemplations magnifiques, justement, sur le sens de ces chiffres. Verset 39. Après qu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Mais croyez-moi, certainement Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie devaient garder cette prophétie que Saint Joseph a entendue. Siméon ne s'est pas adressé à Saint Joseph, il s'est adressé à l'enfant Jésus, il s'est adressé à sa mère. Mais Saint Joseph a entendu, et il a entendu, cet enfant sera pour la ruine et la résurrection d'un grand nombre en Israël. Cet enfant sera un signe qui excitera la contradiction. Et un glaive de douleur percera l'âme de notre Sainte Vierge Marie. Comment a dû réagir Saint Joseph quand il a entendu ce vieillard qui annonçait que sa femme, son épouse chérie, allait souffrir déjà? Certainement que Saint Joseph n'a pas tout compris à ce moment-là, comme notre Sainte Vierge Marie d'ailleurs. C'est pour cela qu'on verra plus tard dans cet évangile, justement cette phrase, « Marie conservait toutes ces choses en son cœur, les méditant sans cesse. » Donc, il s'écoule à peu près 2 mois, entre le 2 février et le massacre des saints innocents. Donc la Sainte Famille va partir en Égypte. La tradition nous dit qu'elle est restée 9 années en Égypte. Bon, c'est discuté entre les pères, tous les pères ne donnent pas les mêmes chiffres. C'est quand même le temps indiqué par la plupart des pères. 9 années en Égypte. Encore, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Fils de Dieu qui va dans un pays païen, un pays qui adore les animaux, qui adore les chiens, qui adore les chats, qui adore les rats, qui adore le soleil, qui adore la lune. Le Fils de Dieu va dans une poubelle paille, poubelle morale pareille, et va y apporter la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ va donc apporter la lumière à un pays de païens. Comme c'est bizarre. Il faut méditer ces choses, très bien, chers frères. Versets 40 à 45 du chapitre 2. Cependant, l'enfant croissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. Ses parents allaient tous les ans à Jérusalem au jour solennel de la Pâque, et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, les jours de la fête étant passés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Et pensant qu'il était avec eux, avec ceux de leur compagnie, ils marchèrent durant un jour et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. Imaginez la douleur, notre Sainte Vierge Marie. Et Saint Joseph. Imaginez une mère de famille qui part dans une grande ville. Vous allez faire des courses avec votre enfant. Vous avez un enfant de 12 ans. Dans un grand magasin, vous perdez votre enfant. Vous sortez du grand magasin, pensant qu'il attend peut-être à la porte du magasin. Il n'est pas là. Vous courez partout dans le magasin. Vous ne le trouvez pas. Et vous cherchez pendant trois jours complets, vous ne trouvez pas votre fils. Imaginez la douleur d'une mère de famille qui perd son enfant de 12 ans. Et là, c'est encore pire, parce que la Sainte Vierge Marie, non seulement elle a perdu son enfant de 12 ans, mais elle a perdu un enfant qui n'est pas n'importe quel enfant. Elle a perdu un enfant qui est le Fils de Dieu. Imaginez la douleur de Saint Joseph. Je suis le père putatif, je suis le gardien de la Sainte Famille, j'ai déjà perdu l'enfant. Alors, il y a ce terme ici, difficile à comprendre. L'enfant croissait en sagesse, en grâce. Il croissait en grâce, donc il y avait des choses en notre Seigneur Jésus-Christ qui allaient croître. Ça correspond tout simplement à ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, qu'il y avait des choses créées en notre Seigneur. L'humanité est créée en notre Seigneur, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ est créée. Donc il y avait en lui non seulement une science divine, bien sûr, on verra ça plus tard dans d'autres textes qui vont arriver, des pères de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas simplement une science divine, il avait aussi une science acquise. Une science acquise. Le Christ ne croissait donc pas en grâce seulement intérieurement, car il était déjà plein de grâce, mais il a manifesté cette grâce extérieurement de plus en plus par ses paroles et par ses œuvres. Comme le soleil qui donne toujours la même lumière, mais qui semble augmenter, puis la diminuer au cours de la journée. Imaginez le soleil qui est derrière un nuage, on ne le voit pas très bien, et puis d'un seul coup, il quitte le nuage, et là on voit dans toute sa splendeur la beauté du soleil. Donc on verra plus tard, je ne vais pas en parler maintenant parce que les pères vont en parler dans quelques versets, et donc j'expliquerai à ce moment-là ces passages extraordinaires des pères de l'Église, justement sur les différentes grâces. Les pères expliqueront qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ non seulement une science divine, mais aussi une science humaine, qui est à la fois une science de vision, une science infuse et une science acquise. Il y a donc une science acquise dans notre Seigneur, une science expérimentale où il pouvait progresser. C'est pour cela que le texte dit que notre Seigneur Jésus-Christ croissait. Non seulement physiquement, mais également en sagesse, en grâce. La divinité qui habite corporellement en Jésus-Christ, parce que Dieu est en lui dans les trois sens possibles, par sa présence générale et universelle dans tout ce qui est créé, par sa présence particulière, dans les justes qu'il sanctifie par sa grâce, et par l'union personnelle de la divinité avec la nature humaine, ce qu'on appelle la grâce d'union. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, va augmenter l'influence de sa grâce, non seulement sur la très sainte Vierge Marie, sur Saint Joseph, mais aussi sur lui-même, dans son humanité, parce que l'humanité, étant quelque chose de créé, va pouvoir croître. Voilà pourquoi il y a, on expliquera plus tard encore une fois, une science acquise, qui est une science expérimentale, qui va augmenter notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, petit enfant, a appris à écrire et à lire, alors qu'il savait tout, en tant que Dieu. Alors, nous reviendrons sur ces textes magnifiques, mes bien chers frères. Je vais arrêter là, parce que ça fait déjà plus d'une heure que je vous parle. Et si le bon Dieu veut, je continuerai donc ce chapitre 2 la prochaine fois. Priez bien pour ceux qui m'écoutent sur Internet dès aujourd'hui. Priez bien pour cette retraite, pour que je sois un bon instrument de la grâce du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, je me trompe, c'est un PDF, ce n'est pas ça.
que je serre un peu. Maintenant, on a un problème de. Et donc, il fera ça, ce sera fait lundi. Celui-là, celui-là.